Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez bien Transistor et c'est parti pour le 50e numéro du journal radiophonique amplifié. On se retrouve ce matin dans le Forum Félix Pecco de l'ENS pour une version matinale à l'occasion de cet anniversaire. On est donc parti pour une heure d'actualité mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée.
Au programme, aujourd'hui on va commencer par un peu d'actualité, on fera le point sur les gilets jaunes, les élections européennes, on partira en Algérie et au Mali. Ensuite, il y aura la revue de presse et la notion pourrie d'Arthur, qui nous parlera de l'état profond en Algérie, puis l'édito écho de Julien, et on finira finalement par la chronique musicienne et le journal de la culture.
Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. Avec toi, Marie. Bonjour, Marie.
Bonjour Rémi, on va commencer par le national avec toi Benoît qui va nous parler des affrontements au Mans.
Tout à fait Marie. Des affrontements ont eu lieu lundi au Mans entre des professionnels forains et les forces de l'ordre suite au refus de la municipalité de les voir installer leurs attractions dans le centre-ville, leur proposant un terrain en périphérie de l'agglomération. C'est une véritable bataille rangée qui a eu lieu après qu'une caravane enflammée a été lancée contre les camionnettes des gendarmes lundi matin. C'est près de 1500 forains venus du nord, de Bretagne, de Normandie et du sud-ouest qui ont bloqué la ville, forçant l'évacuation de la mairie, l'arrêt du trafic de la gare TGV ainsi que de l'autoroute A11 dans les deux sens. Plus qu'une délocalisation, les professionnels forains dénoncent une volonté des municipalités de les chasser des centres urbains vers les périphéries, équivalent à un sacrifice de leur profession, selon les termes d'un membre du syndicat des forains, Sidunati, artisan de la fête. Cette mobilisation, inédite, a fait de la ville de l'ancien ministre de l'Agriculture rolandiste Stéphane Le Foll le lieu d'une bataille pour la reconsidération de la profession foraine pour les personnes mobilisées.
Et tout de suite, on passe avec toi Arthur, tu vas nous parler un petit peu des européennes, un point rapide sur la situation.
En effet, parce que le paysage politique se dessine de plus en plus pour les prochaines élections. Il ressemble juste de plus en plus à une peinture impressionniste, voire abstraite. Si le Rassemblement National et La République En Marche s'opposent sans exposer chacun un programme clair, la gauche s'éparpille, s'écharpe et accuse chaque parti de la désunion. Entre la non-invitation du débat public, du PCF de Yann Brossa ou de la génération de Benoît Hamon, la déception autour de Raphaël Glucksmann qui prend la tête d'une liste PS et qui pousse ses soutiens les plus à gauche à le quitter, et la chute tranquille de la France Insoumise qui va se retrouver à faire le même score que Benoît Hamon, on peut parfois comprendre pourquoi Yannick Jadot, tête de liste de ELV, se présente ni de droite ni de gauche. Et bien sûr, nous tombons dans cette petite litanie où chaque parti et chaque média voit dans les européennes des enjeux nationaux et l'occasion de relancer le pugilat et la compétition sportive politique.
Et on enchaîne tout de suite maintenant avec un point gilet jaune, Benoît.
Eh oui, la mobilisation sociale des gilets jaunes s'est poursuivie partout en France samedi dernier pour son 19e samedi consécutif, avec une participation relativement stable. Cette journée de mobilisation aura été marquée par l'appel des forces armées mobilisées dans le cadre de l'opération Sentinelle afin de défendre les lieux de pouvoir parisiens. Malgré une baisse des violences urbaines par rapport à l'acte 18, l'acte 19 a été marqué par de nombreux contrôles et arrestations préventives suite à la nomination du nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, dont le ministère s'est félicité. En région, la journée a été très médiatisée en raison de fortes violences policières, toujours au rendez-vous, particulièrement dans le sud, à Nice, où une personne âgée du collectif Attaque est tombée dans le coma suite à une charge des forces de l'ordre sur un groupe de manifestants pacifistes.
Et on termine ce national avec la réforme de la fonction publique, qui me semble.
Eh oui, un nouveau contrat social avec les fonctionnaires, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Action et des Comptes Publics ainsi que son équipe devant le Conseil des ministres hier lors de la présentation de la loi visant à réformer la fonction publique. Le projet de modernisation, selon les mots du ministre, prévoit entre autres une refonte des instances du dialogue social par la suppression de pas moins de la moitié de celles-ci. En effet, les commissions administratives paritaires seraient rejetées à une simple fonction de recours. De même, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont amenés à fusionner. Outre le recours accru aux contractuels, la réforme à venir devrait permettre une rémunération au mérite de ces derniers, en tenant compte de leurs résultats professionnels ainsi que de ceux de leurs services. Les syndicats dénoncent dans un communiqué l'ouverture à la dégradation du service public, une fausse modernisation sur principe de coût budgétaire et une généralisation de la contractualisation des conditions de travail au sein de la fonction publique.
Passage maintenant à l'international et on commence avec une visite, celle de Xi Jinping en Europe. Une visite inédite, très attendue et cruciale pour l'avenir de l'Europe. Voilà comment la presse décrit la tournée qu'a effectuée en Europe le président chinois Xi Jinping du 23 au 26 mars dernier. Le programme, une halte à Nice, à Monaco puis en Italie, et une rencontre avec Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Mais en Europe, on reste méfiant face à une Chine qui cherche ouvertement à défendre son projet des nouvelles routes de la soie, clé de voûte du programme du rêve chinois qui consiste pour la Chine à devenir première puissance mondiale en 2050. Si l'Italie pourrait devenir le premier pays du G7 à signer un mémorandum d'entente avec Pékin sur sa participation aux nouvelles routes de la soie, que Monaco a signé un accord avec Huawei pour la mise en place de la couverture 5G de son territoire et que la France a annoncé la signature d'un contrat pour commande de 300 Airbus pour 36 milliards de dollars, l'enjeu pour les Européens est de taille. Tenter de faire front commun face à la stratégie d'influence que met en place une Chine aux ambitions croissantes. Dépasser les divergences pour mettre en place un front commun européen face à la politique chinoise, tout en développant des partenariats sino-européens aussi essentiel qu'inévitable alors que Xi Jinping achève son séjour, l'Europe semble avoir défini un de ses objectifs de politique extérieure pour les prochaines années, un objectif que semble incarner le président Macron, puisque s'il prône un accord sur les investissements entre Chine et Union européenne, il a également appelé la Chine à, je cite, « respecter l'unité et les valeurs de l'Europe ».
En Algérie, les rats quittent le navire après avoir tergiversé sur le moyen. L'armée et le parti principal, le RND, lâchent Bouteflika et décident de soutenir la colère populaire. C'est assez étonnant quand même de voir une bipolarité pareille et on se demande si Bouteflika n'est pas le mieux portant parmi la tête pensante de l'Algérie. Si on n'est pas touché d'Alzheimer, on se souvient que ce même chef d'état-major, Khaled Salah, m'a menacé le peuple algérien il y a quelques semaines de manifester sa colère. Tous se souviennent de l'article 102 actuellement qui met en place par intérim le président du Sénat si le président n'est pas en moyen d'assurer le pouvoir. L'armée et le RND souhaitent sûrement en fait s'assurer pour eux-mêmes la transition, ce qui peut très sûrement tendre le peuple dans les prochains jours à venir.
Retour maintenant sur une décision qui a ravivé les tensions au Moyen-Orient comme sur la scène internationale. Le 25 mars dernier, Donald Trump a signé un traité reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, territoire conquis par Israël en 1967 lors de la guerre des Six Jours, puis annexé en 1981 et occupé aujourd'hui par la communauté druze, une branche de l'islam chiite. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a bien sûr salué la décision et compte faire de sa bonne relation avec Trump un argument de campagne à l'approche des législatives du 9 avril, la communauté internationale a fermement désapprouvé ce traité. Les Druzes d'abord, qui se reconnaissent syriens et refusent de prendre la nationalité israélienne, ont longuement manifesté suite à l'annonce du président américain. La Syrie, elle, dénonce une atteinte flagrante à sa souveraineté et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si la Jordanie voit dans cette décision un cadeau électoral fait à Netanyahu, le secrétaire général de la Ligue arabe a jugé la décision de Trump, je cite, « nulle et non avenue dans le fond et dans la forme », un point de vue qui sera sans doute réaffirmé au prochain sommet de la Ligue arabe prévu le 31 mars à Tunis. En France et en Europe, on ne reconnaît pas une décision que l'on juge contraire au droit international. Une question épineuse donc, qui reste pour l'instant en suspens. Mathilde, maintenant tu nous parles de Monsanto qui vient de perdre un procès.
Oui, une petite bonne nouvelle pour ce journal, le procès Roundup qui a condamné Monsanto à payer près de 81 millions de dollars à un malade du cancer. Le tribunal fédéral de San Francisco a considéré que le groupe n'avait pas agi suffisamment pour prévenir les usagers du risque cancérigène de ce désherbant qui utilisait bien sûr du Roundup et du glyphosate. C'est le troisième revers judiciaire subi par la firme en quelques mois, mais Monsanto a déclaré qu'elle ferait appel.
Décidément.
Et on finit par un bref détour du côté du Mali, qui se relève doucement après avoir subi samedi dernier une des attaques les plus meurtrières de son histoire récente. Des milices Dogon ont en effet attaqué un village Peul et tué 160 personnes. Suite à l'attaque, les ministres se sont réunis en conseil extraordinaire pour limoger les principaux chefs de l'armée et pour dissoudre le groupe de chasseurs Dogon, sans pour autant les désarmer, ce qui inquiète les Maliens et la communauté internationale. Une attaque que l'on explique par l'absence de l'État dans certains territoires du Mali central et par l'affrontement traditionnel entre les éleveurs Peul, dont une partie a récemment été recrutée par le prédicateur djihadiste Amadou Koufa, et les ethnies Dogon, qui pratiquent, elles, principalement l'agriculture. En représailles, hier et avant-hier, 6 villageois Dogon ont été tués dans 2 attaques distinctes. Une crise multidimensionnelle donc, que Ouagadougou tente tant bien que mal de résoudre en renforçant une sécurité qui laisse encore à désirer.
Merci beaucoup à Marie, à toute l'équipe pour ce journal. Et on te retrouve maintenant, Marie, pour ton billet d'ailleurs avec l'actualité internationale. Alors, où part-on cette semaine ?
Alors, pour ce billet d'ailleurs de bon matin, je vous propose de partir pour la Thaïlande, le pays des plages, des pans et des temples, certes, mais aussi celui des élections à l'issue surprenante et de l'attente d'un retour à une société démocratique.
Alors, avant de décoller pour l'Asie, j'aimerais peut-être en savoir un peu plus sur notre destination, Marie.
Alors, bonne idée. La Thaïlande, c'est ce pays de la péninsule indochinoise, principalement bouddhiste, bordé par la Malaisie, le Cambodge, le Laos et la Birmanie, et que l'on appelait avant 1939 le royaume de Siam. Il fait partie, avec notamment l'Indonésie et les Philippines, des tigres asiatiques, ces nouveaux pays exportateurs d'Asie qui se développent très rapidement. Et le pays tire surtout sa croissance du tourisme grâce à ses plages, ses temples et la richesse culturelle de sa capitale, Bangkok. A noter aussi, c'est à la Thaïlande que revient actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, mais aussi la première place en termes d'inégalité sociale devant l'Inde et la Russie, puisque les 1% de Thaïlandais les plus riches possèdent 67% de la richesse du pays, contre 5% pour les 70% les plus modestes.
Alors très bien, mais je crois qu'on va parler politique dans ce billet d'ailleurs. Alors pourquoi tu commencerais pas en fait ? On a presque un peu de retard.
Alors puisque tu le demandes si gentiment, allons-y. Avant le XXe siècle, et pour faire simple, la Thaïlande est dominée successivement par plusieurs royaumes ou empires, mais connaît aussi plusieurs invasions étrangères comme les invasions khmères au XIIe siècle. La date à retenir, ensuite, c'est 1932. Une révolution de 3 heures, menée par le Parti du Peuple, un groupe d'une centaine de personnes seulement, oui c'est un peu étrange, met fin à la monarchie absolue, et depuis 1932 donc, le pays est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que le roi est chef de l'État et des armées, mais qu'une constitution est censée limiter son pouvoir. Aujourd'hui donc, au pouvoir en Thaïlande, on a le roi Rama X qui a succédé en 2016 à son père Rama IX qui avait régné 70 ans sur le pays, Rama X qui sera donc intronisé en mai prochain.
Alors ça c'était dans les grandes lignes, mais j'imagine que tout n'est peut-être pas si rose si on examine l'histoire politique récente du pays.
Alors exactement, et la preuve, depuis 1932, l'armée a effectué 20 coups d'État.
Ouais d'accord. Des coups d'État réussis ?
Alors oui. En 2006, par exemple, l'armée prend le pouvoir suite à un coup d'État et forme un gouvernement provisoire contrôlé par les généraux. Elle organise ensuite un référendum sur son projet d'une constitution antidémocratique visant à limiter le pouvoir des élus au profit de l'armée. Résultat, le projet de constitution antidémocratique est approuvé, mais déception pour les militaires. Lors des élections législatives organisées l'année suivante, le parti du pouvoir au peuple remporte la majorité des voix et son leader, élu premier ministre par les députés, peut former un gouvernement. En 2008 ensuite, le parlement désignera un gouvernement dominé par le parti démocrate, mais soutenu par les généraux.
Et en bref, si on devait résumer la situation politique du pays ?
Alors bon, je fais un petit retour en arrière. Entre 2000 et 2010, le pays est violemment secoué et la capitale bloquée par l'opposition entre deux camps, chemise jaune et chemise rouge. Les chemises jaunes, ce sont les membres d'une élite urbaine conservatrice et partisane de la monarchie, et les chemises rouges, les populations moins aisées qui vivent surtout dans les campagnes risicoles du nord du pays et sont favorables à la démocratie. En 2011, c'est la sœur du roi qui est élue premier ministre avant d'être destituée en 2014 par la Cour constitutionnelle sous la pression de la junte militaire. Et ensuite, je vous passe les détails, mais pour faire court, le système s'éloigne de plus en plus de la démocratie. La preuve avec ces exemples, la restitution du crime de lèse-majesté par exemple. Et pour résumer du coup la situation du pays, on a au pouvoir une monarchie qui est peu favorable à la démocratie, qui cherche à accroître son pouvoir et soutient la junte militaire au pouvoir. On parle d'ailleurs de la Thaïlande comme d'une dictature militaire sous commandement royal. Face à cette monarchie, on a des partis plus démocratiques, comme celui de l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, qui a été contraint à l'exil après le coup d'état de 2014 de l'armée, mais qui reste soutenu par une partie de la population, en partie pour ses réformes sociales comme la sécurité sociale, les bourses scolaires ou l'accès au microcrédit. Le but du roi, c'est donc de se maintenir au pouvoir en effaçant l'influence de Thaksin. Comment ? En le faisant passer pour populiste et corrompu, en appelant publiquement à voter pour les bonnes personnes, comprendre ici l'armée, ou, et c'est une hypothèse que certains avancent, en ayant carrément soutenu le coup d'État de 2014. Autre anecdote, en février, quand la sœur aînée du roi est désignée candidate par le parti Peu Thaï, proche de Shinawatra, et de sa sœur Yingluck, le palais royal désapprouve fortement sa candidature et contraint la princesse, qui était ouvertement favorable à la démocratie, à retirer sa candidature.
Bon, et alors actuellement, qu'est-ce qui se passe en Thaïlande ? Pourquoi ce billet ?
Eh bien, on en vient au point essentiel des... Ce qui se passe actuellement en Thaïlande, je vais y arriver, ce sont des élections législatives importantes, puisqu'il s'agit des premières élections depuis le coup d'État de 2014. Alors, quels sont les principaux camps qui s'opposent ? Numéro 1, le parti Palang Pracharat, favorable à la junte militaire, et dont est issu l'actuel premier ministre.
Numéro 2, le grand parti de l'opposition Petaille, soutenu par les habitants des régions rurales du Nord et par l'ancien Premier ministre Shinawatra, Thaksin Shinawatra, contraint à l'exil après la prise de pouvoir de l'armée, on en a parlé. Numéro 3, le parti Nouvel Avenir, un parti dynamique soutenu par la jeunesse et les classes urbaines. Et enfin, numéro 4, le vieux parti démocrate qui faisait partie du paysage politique récent mais qui a obtenu des résultats si décevants que son chef a démissionné. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'élection est considérée comme un affrontement entre les camps pro-démocrates et pro-armés.
Et donc, tu nous fais attendre, mais quels sont les résultats de cette élection ?
Eh bien, les résultats, bien que contestés pour problèmes de fraude et d'irrégularité, sont en fait une grande surprise. Alors que l'on s'attendait à ce qu'un pays soumis à une sorte de dictature militaire depuis des années vote pour un retour à un système plus démocratique, c'est le Palang Pracharat, le parti donc proche de l'armée, qui est arrivé en tête. Conséquence, le Premier ministre sortant et auteur du putsch de 2014 devrait être en mesure de rester au pouvoir et de former le prochain gouvernement. Mais rassurez-vous, la réponse ne s'est pas faite attendre et l'opposition a annoncé la formation d'une coalition anti-junte militaire menée par Petaille et par le jeune parti Nouvel Avenir.
Alors bon, il est un petit peu tôt ce matin, mais est-ce qu'on pourrait peut-être finir en prenant un petit peu de hauteur et tenter d'analyser ce résultat, Marie ?
Et oui, bonne idée. Pour reprendre les analyses de plusieurs spécialistes, on peut retenir en fait, pour conclure, deux éléments. Le premier, c'est que l'objectif de la junte militaire serait de convertir son régime dictatorial en un régime autocratique légitimé par un vernis électoral. Le deuxième, c'est qu'avec l'émergence de jeunes partis comme Nouvel Avenir, on passe d'un clivage spatial, à savoir une opposition ville pour la ville-campagne, à un clivage générationnel avec des jeunes qui soutiennent activement la démocratie. Un fait plutôt positif, et d'ailleurs, comme le dit un proverbe thaïlandais, la plainte ni la peur ne changent le destin, mais à plusieurs mains, on gravit des montagnes. Espérons en effet que puisse avancer un ouvrage majeur, mener le pays vers une démocratie réelle et non plus feinte.
Merci beaucoup, Marie.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Et c'est maintenant l'heure de ta revue de presse. Rebonjour Mathilde.
Bonjour Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et aujourd'hui, on commence en parlant printemps. Malheureusement, pas toujours signe de renouveau.
Oui, pas de renouveau à la une et même un retour en arrière annoncé en une de Libération qui porte sur le harcèlement sexiste au lycée militaire de Saint-Cyr. Le quotidien qui avait révélé il y a un an les pratiques sexistes et discriminatoires d'un groupe d'élèves appelé le clan des tradis fait le point sur la situation aujourd'hui. Le bilan que nous dresse Libération dans ses pages ne fait que renforcer l'armée dans son rôle de grande muette. Des mesures ont bien été prises, sanctions de 20 élèves et départ de la direction, mais en réalité, le discours à l'intérieur de l'école tend à renforcer le silence de plomb qui pèse sur les étudiantes, plutôt qu'à remédier à une situation sexiste extrême qui nous ramène au Moyen-Âge. Il s'agit, selon les mots mêmes d'un haut gradé, que rien ne sorte de l'école, au risque, si cela se produisait, de la fermeture de l'établissement. Les slogans misogynes qui sont toujours d'actualité et des actes comme uriner sur les parties communes réservées aux filles n'ont donc pas été réprimandés. Une ancienne élève confie dans l'article « On dirait presque un lavage de cerveau. Les jeunes filles sont tétanisées. Certaines ont même fait le choix de la loyauté envers les autorités car elles ont intégré les discours alarmistes. » Contre des pratiques de harcèlement exécrables a donc été choisie la loi du silence et les droits de la femme à l'armée sont vraisemblablement partis en vacances.
Et tandis que certains silences étouffent, d'autres nous manquent cruellement, Mathilde.
Oui, encore une fois, c'est le silence du président américain que l'on regrette, comme nous le rappelle l'Humanité aujourd'hui. On sourirait presque du jeu de mots trouvé dans le journal de Jean Jaurès ce matin, avec ce titre « Syrie, Israël, quand Donald Trump sert la guerre sur un plateau ». Mais l'humour est noir, et on le comprend d'autant mieux lorsque l'on se lance dans l'article de Pierre Barbancet. Bien sûr, le plateau fait référence à celui du Golan et l'article dénonce la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté d'Israël sur la partie syrienne du Golan. En remettant en contexte cette nouvelle action unilatérale américaine, l'article montre point par point le déséquilibre géopolitique régional qui l'entraîne, donnant toujours plus de poids à Israël et faisant encourir de plus en plus le risque d'une montée des tensions.
Mais revenons à Libération, où un autre article a attiré ton attention ce matin.
Oui, c'est le titre « À Montpellier, le pétrin entre en gare ». Des jolies sonorités qui évoquent tout sauf la course joyeuse d'un train filant à travers la campagne. Et pour cause, la nouvelle gare sud de France, c'est seulement 8 trains par jour pour un coût de 142 millions d'euros, comme nous l'apprend Libération. Encore un grand projet inutile, des infrastructures fantômes qui font fantasmer quelques élus et lobbies, alors que la majorité les dénonce. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'une gare du même type est prévue près de Nîmes, sans compter les échos qu'on peut y voir au projet du Grand Paris et de ces immenses gares centres commerciales qui devraient pousser comme des champignons au milieu des champs.
Et notre grand partenaire à l'amplifié, le Figaro, s'énerve un petit peu aujourd'hui.
Oui, le Figaro est épuisé, agacé, excédé par tous ces gens de gauche et leur simplicité d'esprit. Et dénoncé en une ce matin la dialectique infernale qui serait faite, je cite, entre « à ma gauche la lumière, à ma droite les ténèbres ». Au risque de vexer les plus grands fans de la série, je dirais que cet édito me fait plus penser à un épisode de Star Wars qu'à un véritable commentaire politique pertinent. Mais bon, on fait ce qu'on peut pour se donner de l'espoir, comme par exemple affirmer en une du Figaro « la droite veut perturber le duel Macron-Le Pen ». Donc, nous voilà tous rassurés. Non, je ne vous sens pas encore très rassurés par rapport à ces élections européennes. Alors c'est sans doute parce que je n'ai pas encore cité Laurent Wauquiez, qui déclare « globalement ça bouge ». Une dynamique est en train de s'installer. Donc bon, comme je disais, tout est bon pour se donner de l'espoir. D'ailleurs, les sondages frémissent, selon les mots du Figaro. Vous ne sentez pas comme une ambiance de printemps à droite, cette vie qui frémit, prête à éclater comme les bourgeons blancs qui fleurissent sur les branches? Mais je m'égare.
Oui, et tu voulais nous parler, je crois, d'un autre printemps, en fait, un peu plus risqué celui-là, avec ce vent de renouveau qui souffle sur l'Algérie en ce moment.
Oui, la situation en Algérie qui fait la une du monde aujourd'hui. Et que faire de la déclaration du chef d'état-major de l'armée dont nous avons parlé plus tôt? Comment interpréter ce positionnement de l'armée par rapport au grand mouvement populaire qui a débuté il y a déjà plusieurs semaines? La correspondante du Grand Quotidien à Alger a choisi de titrer « La rue craint que la transition lui échappe ». Les manifestants qu'elle interroge sont loin d'être confiants, comme Youssef, 29 ans, mobilisé depuis le 29 février, qui déclare, je cite, « La machine de l'État a très bien fonctionné. Ce sont encore eux qui choisissent. Jusqu'à quand va-t-on se laisser guider par leurs propositions? En face, nous, le peuple, n'avons aucune proposition à leur opposer. » Kahina renchérit de son côté, « Ce n'est pas normal que ce soit un militaire qui nous annonce cela, ce n'est pas son rôle. » Un autre article du Monde donne, lui, la parole à la constitutionnaliste Fatia Benabou, qui est plus optimiste quant à la volonté du chef d'état-major de faire respecter l'article 102 de la Constitution. Selon elle, l'empêchement du président est un moyen d'éviter au pays une rupture violente et engendrera logiquement des élections qui permettront d'élire de nouveaux représentants. Tout l'enjeu étant donc pour l'opposition de s'organiser en vue des élections à venir. Entre les sceptiques et les plus confiants, l'avenir seul nous dira donc de quoi sera fait ce printemps.
Merci beaucoup Mathilde, 8 heures passées de 22 minutes sur Transistor et on te retrouve Arthur pour une petite notion pourrie.
Journal radiophonique amplifié, la notion pourrie avec Arthur.
Alors et aujourd'hui tu nous amènes justement en Algérie avec une transition parfaite depuis la fin de la revue de presse.
En effet, aujourd'hui je vais vous parler en fait des pourritures même dans le fruit de l'Algérie avec la notion d'état profond. Le débat, pour celui qui a le mauvais esprit d'allumer une télévision, sur l'Algérie est quand même assez consternant. Parce que lorsqu'on parle de la clique au pouvoir, on parle de tribus, on parle de clans. Ce mot qui réveille notre racisme de base, qui assimile toujours le pouvoir, lorsqu'on traverse la Méditerranée, à une nouvelle apparition du califat, une figure diabolique, vile et décadente. Pourtant, il y a une logique beaucoup plus moderne qu'il faut essayer de prendre en compte quand la rue dénonce le système, quand on n'est pas avec des millions de personnes dans la rue. Il faut comprendre ce que cela signifie pour eux. Et d'où la notion d'état profond utilisée par les historiens et par les sociologues. On pense l'Europe que l'état-nation selon nos standards, parce que sa construction a nécessité de nombreux acteurs et il a changé d'objectif comme on change de slip, toujours pour s'étendre et s'installer et se légitimer. Si en Europe on a eu droit comme architecte à des prêtres, des juristes, des philosophes, des rois, des marchands, des avocats, des députés, l'État est souvent apparu dans nos ex-colonies par la force d'ex-colonisés, de militaires et d'anciens puissants qui étaient bloqués par le système colonial. Le contrat social, le contrat qui est censé légitimer l'apparition de l'État, est très différent en Algérie. Et il s'est de plus en plus précisé en 70 ans. L'État doit offrir le contrôle et la protection. Et sans lui, c'est le chaos. En fait, c'est la phase du bâton de l'État que la colonisation avait montré aux Algériens. La gouvernementalité de l'État profond est une gouvernementalité sadique. Et on peut voir cet exemple au moment de la décennie noire de la guerre civile. Lorsque l'État s'est retiré, ce fut le chaos, ce fut le massacre, ce fut le sang qui a gouverné l'Algérie. Cet État profond fait de militaires, de patrons et d'anciens aristocrates de grandes familles comme Bouteflika est capable aussi parfois quand même de souplesse. Parce qu'en 2011, en voyant la déflagration au moment du printemps arabe, il s'était précipité d'éteindre les possibles braises en Algérie en versant des dizaines de milliards milliards d'argent sur la population venant de l'hydrocarbure. Bien sûr, cet État n'est sous aucun contrôle politique, sauf peut-être en fait de sa propre logique, à savoir la force, et c'est ce qui se passe actuellement dans la rue. Mais de nombreux paramètres, que ce soit le changement de génération ou l'incompétence croissante qu'on croirait presque intentionnelle de cet État profond, de cette clique d'acariens durant cette crise, créent un émiettement, voire une brèche dans laquelle des millions d'Algériens peuvent actuellement rentrer.
Merci beaucoup Arthur pour cette petite mise au point.
Et après l'Algérie, on continue notre voyage vers les nouvelles routes de la soie avec Julien pour la chronique économique. Et nous te retrouvons donc, Julien, pour nous parler des nouvelles routes de la soie.
Du siècle. Voilà comment le président chinois Xi Jinping décrit son rêve de connecter l'Asie au reste du monde par de nouvelles voies maritimes et terrestres qui portent le nom de Belt and Road Initiative et qui est désignée de façon plus poétique sous celui de Nouvelle Route de la Soie. Il s'agit ni plus ni moins d'un projet d'une ampleur titanesque. Sont en jeu des investissements gigantesques aussi bien en Europe qu'en Asie et concernent les infrastructures routières, portuaires, ferroviaires mais aussi le monde immatériel. Ce projet était au cœur de la visite du chef de l'Empire du Milieu à Paris, qui s'est aussi rendu en Italie. Il a d'ailleurs été accueilli avec faste au Palazzo Quirinale à Rome. La raison ? Après des années de discussions, l'Italie sera le premier pays du G7 à s'associer aux nouvelles routes de la soie. Car en effet, ce projet est également source de tensions entre les membres de l'Union européenne et suscite des levées de boucliers à travers le globe. Décryptage d'un plan au contour en perpétuelle évolution.
Alors dis-nous Julien, les nouvelles routes de la soie concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Les nouvelles routes de la soie n'ont pas de périmètre géographique défini. Depuis son lancement, le projet chinois ne cesse de s'étendre à la fois géographiquement et en termes de secteurs impliqués. Lors de la première phase de développement du projet, 2013-2015, environ 60 pays étaient impliqués dans ce projet. Aujourd'hui, 130 pays et organisations internationales seraient concernés via divers accords. Ces nouvelles routes de la soie concerneraient 60% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial. L'Arctique, l'Afrique et même l'espace sont touchés. Ces projets se concrétisent sous des formes très variées. Des infrastructures immatérielles comme des routes ou des caps sous-marins sont construits, des parcs industriels sont ouverts, mais ils prennent aussi des formes immatérielles comme la promotion de standards techniques, des accords abaissant les barrières douanières ou encore des projets de coopération. Donc le terme de route de la soie reste encore à clarifier car il regroupe sous un seul mot un vaste champ d'application.
Mais pourquoi en fait un tel projet ?
Ce projet vise à soutenir l'économie chinoise exposée aujourd'hui à plusieurs vulnérabilités majeures. En particulier, il vise à réduire les coûts de transport et faciliter la pénétration des produits chinois sur les marchés européens, ou encore à diminuer les surcapacités industrielles chinoises, notamment dans le charbon et le fer. Le projet a aussi un réel intérêt géostratégique pour la Chine. Il vise notamment à la sécurisation de ses approvisionnements en matières premières, car aujourd'hui 80% de l'approvisionnement chinois en pétrole passe par le détroit de Malacca en Indonésie. Le gouvernement chinois espère donc diversifier les voies d'acheminement. Également, il permettrait une accélération du développement des provinces chinoises les moins dynamiques, notamment au nord-est. Le PIB par habitant est en effet 3 à 4 fois moins élevé qu'à Pékin. Toutefois, le gouvernement chinois se défend d'avoir tout intérêt géopolitique.
Et le monde dans tout ça, il en pense quoi ?
Le Belt and Road Initiative pose plusieurs défis pour les pays où il est déployé. Tout d'abord, le coût élevé et la faible rentabilité des nombres de ces projets font courir un réel risque aux pays concernés en les plaçant dans une situation de potentiel surendettement, dans la mesure où le montant de ces prêts peut être très élevé au regard du PIB. Par exemple, le coût du projet ferroviaire Chine-Laos s'élève à 6 milliards de dollars, soit 40% du PIB du Laos. Ensuite, l'inégale répartition des retombées économiques serait problématique. Par exemple, au Pakistan, 80% des revenus générés dans les 40 prochaines années par le port de Quadar devraient bénéficier à la Chine, renforçant ainsi les tensions entre le gouvernement du Pakistan et sa population.
Et notre très chère Union européenne dans tout ça ?
Ce projet est regardé de très près par les hautes institutions européennes car il permettrait non seulement d'améliorer l'interconnexion des marchés asiatiques et européens, mais aussi d'agrandir les marchés pour les entreprises européennes qui sont reconnues en Chine, notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie ou encore de la transition écologique. Cependant, de nombreux points posent problème. Par exemple, du fait des policy banks, il est très difficile pour une entreprise européenne d'avoir accès à des financements chinois. Aussi, les projets reposent obligatoirement sur une énorme participation des travailleurs chinois.
Alors on a besoin de savoir comment l'Europe s'organise-t-elle face à ce projet.
16 pays d'Europe orientale et méridionale de l'Union européenne ont déjà accepté les financements chinois pour certains projets. Toutefois, l'Union européenne essaie de promouvoir une position commune sur l'initiative chinoise. Elle a annoncé qu'elle accueillait favorablement les projets de Xi Jinping à condition que ce soit une initiative ouverte. Comprendre, il n'est pas question que les entreprises chinoises détiennent 90% des projets, respectueuses des règles de marché et des normes internationales.
Alors, si je comprends bien, les pays de l'Union européenne privilégient donc une attitude de précaution pour le moment, c'est ça ?
Exactement. En bref, il s'agit d'un projet titanesque, pharaonique, gigantesque. J'ai l'habitude de finir mes chroniques sur une citation littéraire. Aujourd'hui, j'ai choisi de finir sur une phrase de Fort Boyard qui résume bien ce projet. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Les routes de la soie vous évoquent certainement un artefact du passé et pourtant, j'espère avoir réussi à vous montrer qu'elles n'ont jamais autant été d'actualité.
Merci Julien pour cet édito écho. Et maintenant, on passe à une dernière petite actu à bicyclette.
On se disait, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
Il en alla ainsi de toutes les grandes crises qui secouèrent notre vaillante civilisation occidentale, bâtie pierre après pierre sur ses valeurs cardinales que sont l'amour du Christ, l'amour de la patrie, l'amour du prochain blanc et l'amour de la vaisselle faite, qu'elles prirent au tournant décisif les manifestations les plus symboliquement anecdotiques. Et ainsi en va-t-il de même avec les coups de boutoir menés par l'histoire et la canaille féministe contre le délicat et précieux édifice qu'est la condition de l'homme occidental. Après les studios hollywoodiens, les manuels de grammaire, le foyer de l'ENS et même l'Académie française, qui se fût attendu à ce que le coup fatal fût porté à l'Union cycliste internationale le 2 mars dernier, comme le rapporte La Voix du Nord ? Car c'est bien de courses cyclistes qu'il s'agit. Imaginez la scène, la course des hommes part devant, sans doute parce qu'il y avait du linge à étendre, et suit son bonhomme de chemin, tranquille et languissante, comme un cadre sup dans la queue du bar TGV à l'heure du premier café. Et ces messieurs s'endorment comme s'endort la méfiance de nos virilités décadentes en ce siècle de coups d'état sexuels qui fourbit ses armes. Et la course féminine, particulièrement âpre ce jour-là car l'accès des femmes au travail a privé le monde d'une douceur nécessaire, prend de la vitesse jusqu'à rejoindre la première. Horreur, stupéfaction, la course est arrêtée. On annonce 10 minutes de pause comme pour laisser à l'humanité le temps d'expier ce retournement de l'ordre cosmique, de mesurer la fin d'une ère, de contempler la terreur terrasser les genres, les miettes éparses de la société moderne et de la culture familiale pilées ensemble par les roues implacables des vélos, comme une union terrible de la femme et de la pédale contre le masculin déchu, une guerre de tous contre chacun, la peur au ventre de chaque homme. 10 minutes de pure fin d'un monde avant que l'on ne reparte, une généreuse avance ayant été de nouveau accordée à ces messieurs.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et je n'ai pas réussi à rattraper mon tapis, mais c'est pas grave, il est 8h passé de 32 minutes, l'heure de passer aux sciences. Bonjour à toi, j'ai failli dire bonsoir, les mauvais réflexes. Bonjour à toi, Maxime.
Bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre à travers un incroyable système de ventilation et de drainage.
Vous allez vous dire, ça y est, il a perdu la boule.
Eh bien, pas du tout. Système incroyable car tout à fait naturel et réalisé par de minuscules insectes que nous estimons bien trop souvent comme nuisibles. J'ai nommé les termites et leurs fabuleuses termitières. Ces formidables structures font très souvent parler d'elles, tant elles fascinent et interrogent sur leur complexité. Ces constructions permettent vraisemblablement un contrôle fin de la température, de l'humidité et des concentrations en gaz à l'intérieur du système. Deux récentes études, l'une menée par une équipe américaine de Harvard, l'autre française de Toulouse, mettent en lumière les mécanismes permettant à ces insectes de faire sortir de terre ces habitats très performants. C'est parti.
Alors Maxime, quelle forme prennent ces découvertes récentes qui font tant jaser dans le monde de l'aération ?
Alors tu fais bien de parler de forme puisque c'est finalement sur cette question que s'est penchée l'équipe de recherche dirigée par le professeur Mahadevan de l'université de Harvard. Selon eux, les variations de température à l'extérieur durant la journée influeraient sur la température, l'humidité et la circulation de l'air à l'intérieur de la termitière. Donc jusque-là, rien de bien surprenant, me direz-vous. Et pourtant, l'air qui circule à l'intérieur des termitières transporte, outre du dioxyde de carbone par exemple, des phéromones, qui, fonction de leur nature et de leur concentration, vont modifier le comportement de nos insectes et les amener à renforcer les parois de certaines galeries plutôt que d'autres. Ce qui aura pour effet de moduler la circulation interne de l'air et donc par là même, à nouveau, des phéromones. Les termites vont alors se retrouver à construire et à renforcer d'autres zones et ainsi de suite. Nous avons visiblement affaire à une boucle complexe de rétroaction qui serait à l'origine de la forme si particulière des termitières, un phénomène purement physique donc. Et oui, vous ne pouvez pas, quelle que soit l'estime que vous portez à ces petites bestioles, leur attribuer des talents de mathématicien et d'architecte aussi facilement. Alors bien évidemment, les chercheurs de Harvard ont modélisé ce phénomène et ont fait varier les conditions extérieures du système et ont ainsi réussi à obtenir des constructions de termitières aux formes très diverses que nous pouvons retrouver dans la nature. Ce qui vient a priori valider leurs travaux, bien que la modélisation de la circulation de l'air à l'intérieur de la termitière repose sur des hypothèses à valider.
Et du coup, tout ça ne reste que pure spéculation.
Alors non. Et ça a cela d'extraordinaire qu'une équipe de recherche française menée par Guy Terolaz, chercheur au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université de Toulouse, s'est penchée à peu près au même moment sur la structuration des parois des termitières pour appréhender les échanges de gaz et la régulation thermique avec le milieu extérieur. Ils ont donc pour ce faire numérisé avec une très grande précision l'intérieur de deux termitières construites par la même espèce, Trinervit hermes germinatus, il va vraiment falloir que j'arrête avec les noms d'espèces en latin. Donc je vous passe les noms rocambolesques des outils d'imagerie permettant ces modélisations. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les résultats. Donc les chercheurs découvrent que les parois analysées présentent des pores de petits, donc de taille micrométrique, qui se forment dans les boulettes de matériaux que fabriquent les termites avec leur salive, et de plus gros, pluris à centimicrométriques, et interconnectés aux jonctions entre ces boulettes d'argile. Les parois de la termitière sont donc poreuses, ce qui favorise l'évacuation du gaz vers l'extérieur, notamment du CO2. Les simulations de la circulation de l'air dans la termitière mettent en évidence deux mécanismes différents selon la force du vent. Lorsque celui-ci souffle fortement sur la termitière, nous avons un phénomène de convection. Et lorsque celui-ci souffle de façon moins intense, la diffusion prend le relais. Tout cela est permis du coup grâce à la perméabilité des parois.
Et du coup, cette porosité des parois, est-ce qu'elle ne présenterait pas un risque pour la colonie en cas, mettons, de pluie ou de forte chaleur ?
Eh bien, contrairement à ce que l'on pourrions penser, non. L'air qui est prisonnier au niveau des pores joue un parfait rôle d'isolant thermique et finalement protège la colonie du coup de chaud en maintenant une température intérieure quasiment constante. Ces pores permettent donc un contrôle thermique efficace de la termitière. En ce qui concerne la pluie, eh bien, là encore, ces pores ont plutôt tendance à sauver la mise à nos petites amies. Les matériaux utilisés par les termites pour leur construction sont hydrophiles, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau. Mais les chercheurs ont démontré expérimentalement que les pores interconnectés et de relativement grande taille permettent le drainage rapide de l'eau vers les pores micrométriques par capillarité. Ainsi, la pluie n'entrave pas la circulation de l'air de la termitière et celle-ci sèche beaucoup plus vite. Nos amis architectes ont a fortiori tout intérêt à s'inspirer de cette mécanique pour les constructions à venir que nous imaginons de la même manière que les termitières, pérennes, autonomes et économes en énergie. Plutôt intéressant donc au regard des problématiques écologiques et climatiques actuelles.
On y pensera peut-être pour le chauffage de la salle concours. Merci beaucoup Maxime pour ce petit point termite.
C'est toujours le journal radiophonique amplifié sur Transistor, fer de lance d'un néo-gauchisme que je m'applique à détruire tous les jours sur Transistor jusqu'à 21h.
Et après l'actu, on passe au journal de la culture avec toi Léa.
Bonjour. Vous n'avez rien de prévu ce week-end, c'est parfait. Et si vous aviez prévu quelque chose, annulez tout car ça y est, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le rendez-vous annuel des lecteurs compulsifs et des lectrices compulsives de romans noirs, de détectives amateurs et amatrices, de gens dont la vie est morne et plate mais qui, en écoutant Transistor, ont trouvé de quoi lui donner un peu de piquant et de sens. J'ai nommé, bien sûr, le festival Quai du Polar qui investit à nouveau Lyon pour sa 15e édition du 29 au 31 mars 2019.
Un festival uniquement consacré au polar ?
Eh oui, et ça vaut le coup, juste pour nous rappeler que le roman noir, ce n'est pas de la sous-littérature. Que le roman noir, ce n'est pas juste ce qui est parfois qualifié de roman de gare. Le roman noir, c'est des nuits passées à lire Agatha Christie pour savoir qui a tué Roger Ackroyd. C'est Sherlock Holmes, ce sont les nouvelles de Poe, c'est aussi Le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est Donna Leon qui nous transporte dans le dédale des ruelles vénitiennes. C'est le thriller ou le polar historique, le roman d'espionnage ou le roman à énigmes. Bref, des polars, il y en a pour tous les goûts. Et il y en a des stupéfiants, terrifiants, brillants, bref, des merveilles.
On a compris Léa, tu aimes les romans policiers.
Quel esprit de déduction. En fait, outre mon intérêt personnel pour le genre, si je vous engage si vivement à aller faire un tour au Quai du Polar, c'est parce qu'il est devenu difficile d'ignorer le roman policier dans le paysage littéraire. Notamment en France, où un livre publié sur 5 est un roman policier, ce qui représente 80 collections spécialisées et 20 millions d'exemplaires vendus par an. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, ce festival... Le plus grand festival d'Europe consacré au polar permet chaque année de faire le point sur les évolutions d'un genre qui ne cesse de se réinventer, notamment en s'enrichissant d'un dialogue avec d'autres disciplines et arts. En somme, s'intéresser au roman noir, c'est, outre découvrir de bons livres, se poser des questions sur la structuration du champ culturel dans son ensemble.
Et est-ce que tu aurais encore d'autres bonnes raisons pour nous conseiller d'aller au Quai du Polar ?
Oui, bien sûr. La première, c'est tout simplement... J'aurais dû répondre non, en fait.
Quelle question !
La première, c'est tout simplement les grands noms du polar qui seront réunis. En tout, plus de 140 auteurs venus des quatre coins du monde. Arturo Pérez Reverte, Roberto Saviano, Michael Conley, Elisabeth George, James Salis, Maxime Chatham ou encore Bernard Minier. La deuxième... C'est le thème du festival de cette année, les pays nordiques, qui seront mis à l'honneur par un plateau de 24 auteurs et autrices venus de Suède, de Norvège, du Danemark, de Finlande et d'Islande. Si vous avez déjà lu Millennium, par exemple, de Stieg Larsson, et que ça vous a plu, cette année, le festival devrait vous ravir.
Eh bien, vous ne verrez pas Stieg Larsson cette année au festival.
Oui, non, du coup, non. Mais si vous ne l'avez pas lu ou que vous ne l'avez pas aimé, alors déjà, relisez-le. Et ensuite, le festival devrait quand même vous ravir, donc allez-y.
Mais pourquoi les pays nordiques ? Quel lien avec le polar ?
Le lien, c'est que les auteurs et autrices nordiques... Oui, alors j'ai décidé de ne pas massacrer trop de noms aujourd'hui, donc on va entretenir un flou artistique sur leur identité. Ils sont passés maîtres dans l'art de développer des histoires sombres sur un fond de réflexion sociale. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls, mais quand même, quand on pense au polar, on pense souvent aux pays nordiques.
Et qu'est-ce que le programme alors ?
Des tables rondes qui nous permettront de nous interroger sur la place que tiennent les auteurs étrangers au pays du polar nordique, sur les interactions entre les séries policières et le cinéma, ou encore sur les nouveaux horizons créatifs qui se sont ouverts lorsque les polars ont commencé à investir les podcasts. De manière surtout plus surprenante, mais tout aussi intéressante, il y aura encore une table ronde intitulée « Policiers, avocats, juges, l'apport des gens du métier dans la mise en fiction de leur univers ». Mais surtout, surtout, il y aura aussi plusieurs événements organisés en marge du festival, notamment un escape game géant qui aura pour décor les couloirs du musée Lumière, vendredi soir, ou encore une grande enquête dont voici le pitch. Lyon, sous le feu des projecteurs. Deux crimes viennent d'y être commis en moins de 2 semaines. Deux crimes que relie un étrange point commun. Sur chaque scène de crime, l'identité judiciaire a relevé des traces signalant la présence d'un grand cervidé d'Europe du Nord. Dans cette affaire, les vétérinaires ont la mémoire courte, les témoins sont rares. De troublants personnages se nomment Gultrop ou Trugelmir. Je n'ai pas pu résister, j'ai dû massacrer deux noms. L'univers des nouveaux animaux de compagnie se révèle plus étrange encore quand les criminels se font chercheurs de trésors. La police judiciaire est sur les dents. Reine ou élan, il va falloir choisir et surtout comprendre afin d'éviter une sombre série. Le départ de l'enquête se fera place de la République, où vous pourrez récupérer votre livret d'enquête et les bulletins de réponse seront à déposer à l'hôtel de ville. Le but ? Récupérer les indices disséminés dans la ville ou glisser dans les répliques de comédiens afin de résoudre cette sombre histoire. Si je résume, le festival Quai du Polar, ça se passe à Lyon, de vendredi à dimanche, en partenariat avec 11 librairies indépendantes. C'est plus de 500 séances de dédicaces, une soixantaine de conférences et rencontres sur des sujets d'actualité et de société, des lectures, des animations, la remise de 7 prix littéraires, notamment un prix de bande dessinée, des animations et aussi Sombre incarnation de votre pire cauchemar, l'organisation de dictées. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je trouve qu'elle s'accorde bien au thème. Bref, ça va être bien.
Merci beaucoup Léa pour cette invitation au Quai du Polar. Et tout de suite on passe à la musique, à la musicienne. Oui. Bonsoir Benoît, bonsoir Maëlle.
Bonsoir, bonsoir, bonjour.
Il est 8h du matin,
allez,
mais bonsoir.
Je me suis fait avoir, ça y est.
Bon alors, quelle œuvre de Jean-Sébastien Bach vaut-il mieux cacher aux enfants, Benoît ?
L'art de la fugue.
je vais dire des trucs simples.
C'est dur le matin.
Alors, si j'ai bien compris, Benoît, aujourd'hui, tu voulais nous parler de cinéma.
Exact. S'il y a bien un genre de film musical par excellence, c'est bien celui du biopic. Autrement dit, l'art de s'attirer des ventes faciles en tablant sur la réputation d'un groupe à succès. Outre l'avantage des retours sur investissement assurés, c'est bien pratique le biopic. Un scénariste qui ne se casse pas la tête et adapte la biographie qui prenait la poussière sur l'étagère, une brochette d'acteurs convaincants, une BO tout aussi facile à trouver en deux clics sur iTunes, hop hop hop, la production est faite, on édulcore le tout pour esquiver l'interdiction au moins de 12 ans, et hop hop hop, on obtient un film sans risque à succès assuré. Et pourtant, quasiment à chaque fois, c'est le kiff. J'ai adoré Walk the Line, le biopic de Johnny Cash, j'ai tout autant aimé la star des biopics de cette année qui était Bohemian Rhapsody, et j'ai adoré The Dirt, biopic de la crème du hard rock glam, j'ai nommé Motley Crue, sorti sur Netflix le 22 mars. J'avais 12 ans lorsque j'ai découvert Motley Crue. Quelle belle année que la 5e pour tomber amoureux d'un groupe vieillot qui sentait les compositions faites à l'arrache à base de 4 accords que j'apprenais une à une en par cœur en rentrant du collège. Comme n'importe quel pseudo-rebelle roqueux boutonneux, j'adorais leurs fringues que je portais, j'adorais leurs coupes de cheveux qui laissaient rêveur, et j'adorais leurs frasques que j'aurais aimé pouvoir reproduire une à une. Quand on écoute Motley Crue, même les nombreux sales PD finissent par passer au-dessus de la tête à la cour de récré. C'est peut-être ça la beauté de ce groupe pour moi. Alors forcément, quand j'ai appris l'adaptation sur Netflix de leur biographie à succès, c'est The Dirt, paru en 2001, j'ai commencé à sérieusement flipper. Et pourtant, je n'ai pas été déçu. Je retiens Rémi, hein, ce mauvais jingle, mais bon. Entre chambre d'hôtel ravagée. Ah ben, c'est ça, ouais. Entre chambre d'hôtel ravagée, débauche de drogue et d'alcool et conquête féminine à gogo, il était difficile de ne pas voir arriver un film très complaisant sur le groupe. Et pourtant, contrairement à son lointain cousin Bohemian Rhapsody, le film se veut beaucoup plus acerbe sur la vie du groupe, à l'opposé de la déification complète de Queen à laquelle nous avons eu droit. Bien loin de constituer un chef-d'œuvre, le film pose un regard cru sur les 80s cocaïnés du hard rock, proposant presque une vision adulte et critique de la chute tout annoncée de cette ribambelle de groupe sortie de nulle part, héros d'un jour devenus parias musicaux absolus. En résumé, on peut dire que The Dirt sera un beau chant du cygne pour les fans de hard ayant du mal à tourner la page, et un petit film du samedi soir sympathique pour les néophytes.
Enfant, j'étais du matin. Je me réveillais avant tout le monde, me faufilais parfois en pyjama par la fenêtre pour sentir la rosée sous mes orteils. Puis l'adolescence est passée par là, a bousillé le cycle, chamboulé mes hormones et a fait de mes réveils des instants douloureux, accompagnés souvent d'un profond désespoir face à cette nécessité implacable de quitter mon lit chaleureux. You're gonna sleep like a baby tonight. In your dreams, everything is alright. Tomorrow. Someone else's suicide. You're gonna sleep like a baby tonight. C'est Bono donc qui chaque matin me réveillait en me rappelant qu'il y aurait toujours les rêves pour échapper à la réalité. Il évoquait aussi vaguement un truc à propos du suicide, ça sonnait bien, ça allait avec mes douloureuses sensations matinales. Ajoutez à ça les sonorités électroniques un peu dramatiques, vous obteniez au soupir près les affres de mon lever.
Mais enfin, U2, ça reste quand même 3 notes de gratte avec beaucoup de reverb.
Voilà, U2, c'était suffisamment mélo pour pas me forcer à réfléchir, suffisamment bon pour pas me lasser trop vite, et suffisamment populaire pour assumer mes fredonnements intempestifs. exhaustif parce qu'impossible évidemment de me sortir la chanson de la tête de toute la journée. Et puis voilà, un jour, c'est le drame. Je me lève comme tous les matins, à une heure qui pour moi de toute façon n'est jamais la bonne. J'écoute d'une oreille l'irlandais et sa voix sexy pour me consoler de cet anglais que je méprise si peu. Et va savoir pourquoi, ce matin-là, je ne me contente plus des bribes des paroles que je saisis. Il faut dire que moi, je me suis fait tout un scénario à partir de ces quelques phrases que je comprenais. C'était une chanson faite pour consoler quelqu'un ou quelqu'une dont la vie était très difficile. Une chanson pour dépressif qui sentait bon la caféine ou le verre de vin rouge selon l'heure. Sauf que voilà, cette fois, je me contente pas de cette libre interprétation. Et je vais jeter un coup d'œil aux paroles. Et là, c'est le drame. Ta robe est de la couleur du pardon, tes yeux aussi rouges que Noël, robe pourpre froissée sur la chaise de la cuisine, nananana, l'espoir est là où se trouve la porte quand l'église est l'endroit où est la guerre. Quoi ? Vous censez poindre le malaise ? À ce moment-là, dans ma tête, c'est l'hésitation totale. Il n'est pas trop tard pour fermer les yeux, me mettre des œillères et refermer la porte en faisant semblant de ne pas avoir vu la silhouette de ce pressentiment malheureux. Évidemment, cependant, la curiosité est plus grande, je fais ma petite recherche et la vérité frappe. Sleep Like a Baby Tonight est une berceuse pour prêtre pédophile. Les relents sombres de la musique étaient bien là, ce n'était juste pas ce auquel je pensais. Bono ne console pas, il accuse, il maudit avec une mélodie plus doucereuse que bienveillante. Et oui, U2 ne pouvait pas se contenter d'une chanson à l'eau de rose, il a fallu encore une fois qu'il mette un grand coup de pied dans la fourmilière, cette fois de l'église catho et de ses bails sombres. Voilà donc comment, en bonne ignorante et quiche en anglais, je me suis réveillée pendant des semaines sur une chanson pour soutane perverse. Barbarin doit bien se marrer. Bonne journée à tous.
He'll toss your tea and sugar. Read about a politician's lover. Go through the day like night through butter. Why don't you eat dress in the colors of forgiveness? Tomorrow dawns like someone else's suicide. You're gonna sleep like a baby.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et comme Maë maintenant, on est bien réveillé après cette chronique musicienne. Alors c'est l'heure ce matin de retourner vers le chemin de l'école avec journal. Arthur.
Journal radiophonique amplifié sur le chemin de l'école avec Arthur.
Et Arthur, tu nous emmènes vers l'école de la défiance qui ouvre la voie à la censure des enseignants.
Oui, tout à fait. Une vague de contestation balaie l'éducation nationale depuis plusieurs semaines. Après le mouvement de boycott des conseils de classe, l'attribution générale de 20 sur 20, la démission de professeurs principaux dans certains collèges et dans près de 600 lycées, c'est dans le primaire que les profs se mettent en branle contre l'école de la confiance, avec des taux de grève qui sont allés jusqu'à 60% dans certaines académies le mardi 19 mars. Le temps de la circonspection des enseignants face au nouveau ministre Jean-Michel Blanquer est désormais passé. Avec la mesure du dédoublement des classes de CP et de CE1, Blanquer avait cru pouvoir se mettre les professeurs des écoles dans la poche et s'attaquer tranquillement à la mise en place de Parcoursup et de la réforme du lycée. Toujours la division pour mieux régner. À présent, les réformes tombent tout azimut. Après le passage en force de Parcoursup, la réforme des lycées général et professionnels en cours d'application, en dépit des résistances, le ministre de l'Éducation nationale a décidé de taper sur les écoles primaires avec le vote du projet de loi sur l'école de la confiance. Votée à l'Assemblée mardi 19 février, la loi prévoit l'instauration du drapeau bleu-blanc-rouge dans les salles de classe, un coup pour satisfaire la droite, ou encore la prise en compte de l'homoparentalité dans les fiches d'élèves, un coup pour calmer à gauche. La loi comprend notamment le renforcement du devoir de réserve et l'interdiction de l'expression publique sur l'école, y compris en dehors des établissements de la part des enseignants. Sophie Carrouge, professeure de français dans un lycée de Dijon, a déjà fait les frais de cette volonté ministérielle de museler les professeurs. Sa réaction sous la forme d'une tribune intitulée « Le grand chef blanc a parlé » à l'intervention d'Emmanuel Macron du 10 décembre face à la colère des Gilets jaunes, lui a valu la convocation de son rectorat 10 jours plus tard. Un fonctionnaire ne doit pas critiquer sa hiérarchie et l'État employeur, lui assène-t-on alors. la loi dite de l'école de la confiance ouvre la voie à la censure des enseignants.
Mais la réforme rend obligatoire la scolarisation dès 3 ans, n'est-ce pas une grande avancée sociale ?
Bah non, pas vraiment, puisque c'est déjà le cas pour 97% des enfants. Selon le SNUP FSU, premier syndicat dans l'enseignement primaire, la réforme offre la maternelle au privé. C'est-à-dire que le vrai changement consiste à imposer aux collectivités territoriales de participer au financement des écoles maternelles privées sous contrat, alors que les moyens manquent déjà pour faire tourner le public. Mais ce qui a fait le plus bondir les enseignants des écoles, c'est en particulier la suppression des directeurs d'école, eux-mêmes enseignants de primaire, partiellement ou totalement détachés. Avec cette loi, ce seront les proviseurs des collèges avoisinants, sans connaissance du métier ni visée pédagogique, qui deviendront les supérieurs hiérarchiques des professeurs des écoles au sein d'établissements de savoirs fondamentaux, regroupant le primaire et le collège. Donc pour répondre à la question, ce n'est pas du tout une grande avancée sociale, hein. Enfin, et cela concerne le primaire, comme le secondaire, des missions d'enseignement pourront être confiées à des assistants d'éducation, les AED, communément appelés pions par tout le monde, sans formation et sans l'équivalence de salaire. La mesure ouvre la voie pour une école au rabais, autant du point de vue des conditions d'études des élèves que du travail des personnels non enseignants. Donc payés au SMIC sans formation adaptée, comment espérer des cours de qualité de la part des surveillants ? La loi sur l'école de la confiance n'est pas la seule à cristalliser les mécontentements. À mesure que la réforme du lycée général se décline, la liberté de choix de la carte d'enseignement des élèves se réduit à peau de chagrin. Limitation des spécialités dans les établissements, places limitées, sélection sur le profil de notes, impossibilité de faire appel pour les parents sur les choix de spécialité. À cela s'ajoute l'application de la réforme du lycée professionnel qui réduit drastiquement la place laissée aux enseignements généraux et réduit les fonctions des enseignants de lettres histoire à des cours de CV et lettres de motivation. Des réductions d'heures de cours qui vont avec des postes qui sautent évidemment.
Alors, est-ce que des manifestations contre la réforme sont à venir ?
Alors, les syndicats de l'éducation en appellent à une journée d'action le samedi 30 mars, hein, voilà, c'est ce week-end. Les revendications des enseignants, en plus du retrait des réformes en cours, réclament les augmentations salariales et la baisse des effectifs par classe dont les seuils sautent. L'envie d'en découdre pourrait donner des ailes à la reconduction d'un mouvement dans l'éducation nationale qui soit pour une fois de la maternelle au lycée.
Merci Arthur.
Il giornale radiofonico de amplificación.
Sur Transistor.
Et juste deux petits mots avant la désannonce pour remercier un petit peu deux, trois personnes à l'occasion de ce 50e journal radiophonique amplifié sur Transistor, après également 4 années de l'émission. Alors on pense évidemment à Clément Nicole qui a fondé l'émission, à Jérémy Sagnier qui a pris la main, à l'ensemble des chroniqueurs et en particulier Raph qui a failli être avec nous ce matin, toi Mathilde qui la reprend en main désormais, et puis bien sûr toutes les auditrices, tous les auditeurs de Transistor qui nous suivent depuis 4 ans. Ce sera le mot de la fin, Mathilde.
C'était donc ce matin, très tôt pour vous, le journal radiophonique amplifié. Cette semaine, il y avait Maë Burla, Benoît Auclair, Arthur Kramer, Arthur Guérin-Turc, Maxime Seguin, Julien Ducroux, Marie Douniac et Léa Burga. En régie, c'était Rémi. Nous remercions également UNS Média pour son soutien technique. Et le journal radiophonique amplifié, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et Rémi Cerda. La prochaine diffusion, ce sera après la JDR, la fameuse journée de la radio, qui aura lieu, je vous le rappelle, le 9 avril. Vous retrouverez toutes vos chroniques préférées du journal radiophonique amplifié dans la matinale et dans Transistor Midi. Mais la journée de la radio, c'est aussi 3 tables rondes sur le thème du paysage, des chroniques culturelles, gastronomiques, œnologiques, de la musique et du cinéma. Bref, venez le 9 avril en Cantor pour écouter Transistor.